Europe 1. Sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement Vôtre, 2 heures à la lisière de l'histoire et du rire en compagnie du patron, le spécialiste incontournable de l'histoire dans les médias français. C'est un honneur de co-présenter cette émission avec lui, d'autant que je sais qu'il m'a vraiment choisi entre 1000.
C'est pas le meilleur, c'est le moins nul.
Merci Stéphane Bern, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Je ne vous ai pas choisi entre 1000, au casting il y avait 3 types, dont un était bègue, un autre ne parlait pas français. Mais c'est quand même avec joie que je vous retrouve chaque après-midi pour Historiquement Vôtre. L'émission de l'histoire rieuse, du gai savoir, mais aussi aujourd'hui du dépassement de soi.
Oui Stéphane, c'est le point commun de nos 3 personnages cet après-midi, ils sont montés tout en haut.
Eh oui, grimpe là-dessus, tu verras, l'Annapurna. Je vous raconte le destin sur les cimes de Maurice Herzog, célèbre alpiniste entré dans l'histoire pour avoir vaincu les 8000 mètres de cette montagne de l'Himalaya, aux dépens, hélas, de celui qui l'accompagnait, vous verrez. Puis, on garde notre piolet, direction les Alpes, à la rencontre d'un Anglais qui n'avait pas peur, Edward Whymper, celui qui a gravi la paroi abrupte du massif du Cervin, une montagne de plus de 4800 mètres, qui a tristement emporté une partie de sa cordée. Quant à vous, Mathieu, vous nous raconterez le destin d'un homme qui est dernièrement allé encore plus haut, beaucoup plus haut que Herzog et Whymper.
Oui, mais pas à la force de ses bras, plutôt à celle de ses dollars. Richard Branson, le facétieux milliardaire britannique, a récemment atteint l'espace avec un vaisseau spatial de sa propre compagnie, Virgin Galactic. Retour sur un destin quite unbelievable, my dear.
Et eux aussi sont incroyables. Avec nous, comme chaque jour, ils tutoient les sommets. D'abord, elle nous entraîne dans l'intimité des grands de ce monde. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach.
Bonjour Clémentine. Bonjour Mathieu, ça m'amuse. Parce que
elle est heureuse de se retrouver.
Aujourd'hui, ça ne sera pas vraiment l'intimité des grands de ce monde. Et je vais plutôt avoir besoin d'une truelle que d'un piolet pour évoquer un anniversaire récent, les 60 ans de la construction du mur de Berlin. Et il y a une photo de cet événement qui a fait le tour du monde et qui symbolise la guerre froide, celle d'un soldat allemand chargé de surveiller la zone frontière. Et lui, il choisit de passer à l'ouest en sautant par-dessus les barbelés. Il s'appelait Konrad Schumann. Et donc, je vais revenir sur l'histoire de ce premier soldat du bloc de l'Est à avoir choisi la liberté. Donc, il a fait le mur, mais symboliquement, le mur n'existait pas encore. Donc, il a fait un saut comme nous, Reyev, choisissant la liberté.
Oula, c'est beau,
au-dessus des barbelés, beau, dans le film de Lelouch. Vous vous souvenez pas de cette scène magnifique?
On se souvient de tout, nous sommes cinéphiles, madame.
Et puis avec nous, David Cassel-Lopez, qui remonte aux origines. Oui.
Ça peut vraiment être tout n'importe quoi. Là, c'est le mot « maman ». Le mot maman, parce que l'année dernière il y avait cette chronique la vôtre qui s'appelait le mot de la fin,
mot de la fin,
vous faisiez l'étymologie d'un mot,
tous les mots,
et là vous
avez
fait la fin
et en
du
fait
mot,
je reprends une sorte de flambeau et maintenant je prends le mot maman pour aujourd'hui, les origines du mot maman.
Je sens Olivier Pouls dubitatif quant à ce choix de sujet, Stéphane.
Je me demande comment il pond les idées de ces chroniques. Quoi. C'est la nuit tard, c'est le matin tôt.
Non, c'est en permanence.
C'est fortement imbibé.
Mais jamais je ne bois pas, ou très peu, vous voyez. Donc
parce que c'est ce mot qui est né dans toutes les langues, pratiquement. Voilà. Hein. Olivier Pouls, alors vous avez choisi quoi comme origine d'une recette, d'un plat?
La mouclade. Mais savez-vous ce que c'est?
Toi, psychologiquement, t'es bien.
Bien sûr.
La mouclade.
J'avais une petite envie de moule, mais est-ce que vous savez ce que c'est que la mouclade?
On ajoute de la crème ou du fromage ou une espèce de...
Il y a de la crème, mais il y a surtout un autre ingrédient indispensable. Bon, je vous dirai ça tout à l'heure.
C'est un alcool?
Non. Vous saurez tout à l'heure.
On le saura tout à l'heure. Enfin, si seulement, comme nos personnages du jour, Stéphane et Clémentine, pouvaient aller plus haut. Mais c'est pas gagné, les jours se suivent, les réponses saugrenues s'enchaînent. C'est terrible de voir 2 réputations se déliter dans l'épreuve cruelle, mais juste du quiz. Burn to be alive, ce sera sanglant. Et ce sera comme d'habitude vers 5h-10. Mais d'abord, prenons justement un peu de hauteur, direction l'Himalaya. Oui, parfaitement, jusqu'à preuve du contraire, l'Himalaya est en Chine, au moins partiellement.
Ah bon ?
Stéphane Bern nous raconte le vainqueur de l'Annapurna, Maurice Herzog.
C'est au Népal. On passe par le Népal.
Oui, mais tu sais, bah non, mais la Chine, il y a une partie de l'Himalaya en Chine, enfin, il y a tout le truc du Tibet.
Si vous voulez monter en haut de l'Himalaya, vaut mieux passer par le Népal. Hein.
Ouais, mais il y en a qui préfèrent aller de l'autre côté, ah, c'est plus.
Il y en a qui préfèrent par la Belgique. En fait, par la Chine.
Vous n'avez pas de musique népalaise. Non, mais la vérité est là. C'est qu'il n'a pas de musique népalaise.
Un jour. Mais d'abord, prenons un peu de hauteur. Toujours plus loin, plus fort, plus vite, jusqu'au bout de l'extrême limite. Il va droit au cœur de l'action, c'est son bonheur, c'est sa passion. Lui, ce n'est pas Stefan Bern, mais bien celui dont il nous raconte la folle histoire, l'alpiniste Maurice Herzog, qui est monté haut, très haut.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stefan Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
L'alpinisme a toujours été une histoire de record. Atteindre le plus haut sommet par la plus belle ou la plus difficile des voies a toujours été l'un des moteurs des amoureux de la très haute montagne, celle où la moindre erreur ne pardonne pas. Et petit à petit, à partir du 19e siècle, les records sont tombés les uns après les autres grâce à la détermination des alpinistes et à l'évolution du matériel. Mais au milieu du siècle dernier, il restait encore un pari à gagner, un défi complètement fou sur le papier, vaincre l'une de ces 14 montagnes qui culminent à plus de 8000 mètres entre le Népal, la Chine et le Pakistan dans le massif de l'Himalaya. Il y a l'Everest, bien sûr, la plus haute du monde avec ses 8848 mètres, mais aussi le K2, le Makalu ou l'Annapurna. Des monstres de roches et de glace où l'air se fait rare, poser le pied sur l'un de ces sommets et en revenir vivant, c'est entrer dans la légende. Cela fait longtemps que les grandes nations de l'alpinisme luttent pour franchir cette barre mythique, à commencer par l'Angleterre et l'Allemagne qui multiplient les expéditions. Mais la Deuxième Guerre mondiale est venue stopper net toutes ces tentatives. Pourtant, très vite, après 1945, la course recommence. À Paris, au siège du club alpin français, on sait qu'il y a un coup à jouer. Entrer dans l'histoire, oui, mais l'occasion aussi de faire vivre à la France, encore meurtrie par la guerre, une belle aventure dont elle a bien besoin. Il y a deux cibles potentielles en plein cœur du Népal. Le Dholagiri, à 8167 mètres, et l'Annapurna, qui culmine à 8078 mètres. Ce sera l'Annapurna. Évidemment, une expédition pareille ne s'improvise pas. Il faut acheminer des dizaines de tonnes de matériel, recruter des Sherpas, assurer la logistique et les transports. Il faut aussi former une équipe à la hauteur et lui choisir un chef capable de diriger un groupe qui va risquer sa vie. Ce rôle, c'est notre personnage du jour qui va le jouer, Maurice Herzog. Au premier abord, il n'est pas le candidat le plus évident. En 1950, Herzog a 31 ans. C'est un fils de bonne famille qui est passé par HEC, un excellent alpiniste, mais ce n'est pas un professionnel de la montagne. Cependant, Herzog est aussi un organisateur hors pair et un ancien résistant qui a fait ses preuves à la tête d'un maquis dans le massif du Mont Blanc. C'est donc à lui qu'on confie un groupe qui réunit la fine fleur de l'alpinisme français, dont Lionel Terray, Gaston Rébuffat et Louis Lachenal. En mai 1950, l'expédition est à pied d'œuvre. Le temps presse car la mousson qui arrive ne va pas tarder à rendre impossible la moindre tentative. Maurice Herzog fait le choix de s'attaquer au monstre à la manière alpine, c'est-à-dire en pariant sur la vitesse de l'ascension. Le 31 mai, le chef fait partir un télégramme à Paris. Donnons assaut à Annapurna, stop. Voie glaciaire difficile, mais permettant progression rapide, stop. Physique et morale de tous, parfait. Le 2 juin, Herzog et Lachenal décident de se lancer le lendemain matin en partant du camp numéro 5 à 7500 mètres. Dans leur petite tente, les deux alpinistes passent une nuit terrible. Au matin du 3 juin, ils ne peuvent même pas prendre un thé. Il fait si froid que le réchaud refuse de s'allumer. À 6 heures, Herzog et Lachenal se lancent par moins 25 degrés à 500 mètres sous le sommet. Dans l'Himalaya, chaque pas est une souffrance. On respire mal. Les gestes et la pensée se ralentissent à cause du froid et du manque d'oxygène. La circulation sanguine se concentre pour protéger l'essentiel, le cœur et les poumons, en leur réservant le peu de chaleur que l'organisme peut encore produire. Avec le vent qui s'intensifie, les deux hommes sont en train de geler sur place. Mais Herzog s'acharne et à 14 heures, pour la première fois au monde, l'homme pose le pied au-delà de 8000 mètres. Malgré le froid, Herzog insiste pour immortaliser l'instant. Comme Lachenal, il pose ses gants pour prendre quelques photos. Il faut redescendre et vite. Lachenal part devant, suivi de Herzog qui criera plus tard « J'enfile mes gants en partant, mais soudain, l'un d'eux m'échappe. Il roule tout doucement vers le bas. Je le regarde impuissant et pressant la catastrophe qu'il entraînera. » C'est donc les mains nues que Herzog finit par rejoindre le camp numéro 5, mais ses doigts sont déjà gelés, comme ceux de Lachenal qui a manqué la tente et qu'on retrouve par miracle un peu plus tard. La descente vire au supplice, Herzog et les autres s'égarent. Ils sont pris dans une avalanche dont ils ressortent par miracle avant d'être contraints de passer la nuit dans une crevasse alors que leur état se dégrade de plus en plus. Le 7 juin 1950, ils atteignent le camp numéro 2 où le docteur Oudo, le médecin de l'expédition, prend la mesure des dégâts. Il fait ce qu'il peut à coups d'injections qui sont autant de tortures pour Herzog et Lachenal. Au fil des jours, la situation s'envenime. Herzog, le plus touché, a déjà perdu 20 kilos et la fièvre monte. Le docteur Oudo n'a plus le choix. À la fin du mois, alors que l'équipe est enfin en sécurité dans un village de la vallée, il se résout à amputer Herzog en urgence, à vif et sans anesthésie. Ce qui lui sauve probablement la vie. Quelques jours plus tard, l'expédition atteint enfin Delhi, avant de pouvoir rentrer en France, sans avoir encore vraiment pris conscience que leur exploit a fait la une des journaux du monde entier, fasciné par les conditions dantesques d'une victoire qui va rentrer dans l'histoire. L'expédition a un retentissement mondial, mais c'est surtout le nom de Herzog qui va s'imposer. Il est évidemment le chef de l'expédition, mais c'est aussi lui qui est revenu le plus meurtri, puisque l'aventure l'a privé de tous ses orteils et de la plupart de ses doigts. Il y a aussi l'impact d'une couverture célèbre. Le 19 août 1950, le magazine Paris Match publie une photo choc prise par Lachenal qui montre Herzog au sommet de l'Annapurna, les bras levés, un drapeau français dans ses mains déjà gelé. L'Annapurna a déjà un visage, mais la légende ne fait que commencer. Et c'est Herzog qui va l'écrire avec un livre qui va marquer toute une génération. Annapurna, premier 8000. Un livre culte pour les alpinistes en herbe. Mais un récit n'est jamais que le point de vue d'un seul homme dans une aventure par nature collective. Là, c'est vrai qu'on oublie vite que Herzog n'est pas le seul à avoir atteint le sommet de l'Annapurna. Mais le nom de Lachenal est très vite éclipsé. Il faut dire que Herzog a bien des avantages, à commencer par une certaine aisance naturelle et un physique avantageux qui rappelle un peu celui de l'acteur Clark Gable. Face aux médias, Herzog n'hésite pas à transformer l'exploit du Népal en récit patriotique, ce qui flatte forcément un large public. Au fil du temps, le récit de Herzog s'est un peu brouillé. Beaucoup lui ont reproché de se donner le beau rôle, de décrire Lachenal comme un excité qui a failli abandonner, de le réduire finalement à un rôle de faire-valoir pour mieux faire ressortir son propre courage. Le récit que sa fille Félicité Herzog lui a consacré en 2013, un héros, a encore un peu plus remis en cause l'image que son père avait soigneusement construite au point d'avoir fait censurer une partie des souvenirs de Lachenal publiée à titre posthume en 1956 sous le titre « Carnet du vertige ». Réédité depuis, il livre un autre regard sur ce dernier effort, mais il dessine surtout une autre lecture de l'aventure en elle-même. Pour Herzog, vaincre l'Annapurna a toujours été un enjeu de grandeur nationale. Pour Lachenal, l'Annapurna était une affaire d'alpinisme, pas de patriotisme. Et l'une de ses phrases le dit bien dans ses carnets. « Si je devais y laisser mes pieds, l'Annapurna, je m'en moquais. Je ne devais pas mes pieds à la jeunesse française. » Herzog et lui n'avaient tout simplement par la même lecture de leur exploit et de leur sacrifice. Et un seul se lancera d'ailleurs en politique. Ce fut, vous l'avez compris, Maurice Herzog, qui est appelé en 1958 par le général de Gaulle pour devenir secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, avec l'objectif de former des champions français et de faire rayonner le pays à l'étranger.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Maurice Herzog, nous sommes avec Frédéric Thiriez. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Bonjour Frédéric Thiriez, vous êtes avocat au Conseil d'État à la Cour de cassation, vous avez été président de la Ligue de football professionnel de 2002 à 2016, mais vous êtes aussi, en plus du ballon rond, un passionné d'alpinisme. Vous êtes l'auteur d'un dictionnaire amoureux de la montagne paru chez Plon et de « Montagne, les plus belles pages de l'Antiquité à nos jours » qui est paru l'an dernier aux éditions du Mont Blanc. Je parlais d'un autre livre dans le récit, celui dans lequel Maurice Herzog a raconté son expédition et qui s'est vendu à 30 millions d'exemplaires dans le monde. Vous en citez des pages dans votre anthologie. C'est l'un de vos livres de chevet favoris. Et est-ce que c'est l'un de ceux qui vous a donné envie, au fond, de gravir les montagnes ?
Absolument. J'avais 12 ans, je crois, quand j'ai lu Annapurna, premier 8000, que mon père m'a glissé gentiment sous les yeux. Et c'est ça qui m'a donné la vocation, avec, soyons justes, un autre auteur. Frison Roche, premier de cordée. Et c'est vrai que ces deux livres m'ont donné une folle envie de grimper. Et l'année qui a suivi, j'ai demandé à mon père de m'inscrire à l'UCPA. Et depuis, j'ai pas arrêté.
Quand Herzog devient, avec la Chenelle, il faut le rappeler, le premier homme de l'histoire à vaincre un 8000, il est auréolé de gloire. Herzog, c'est un peu le héros que la France se cherchait à ce moment-là?
La France avait absolument besoin d'effacer l'humiliation de la guerre. Et donc, réussir dans l'histoire, le premier 8000, c'était pour la France une sorte de... une fête, une réhabilitation extraordinaire. Et on a du mal à s'imaginer, mais en 1950, Maurice Herzog était un héros mondial. C'est-à-dire que le monde entier ne parlait que de lui. C'est comme, il était aussi connu que Lindbergh ou comme le premier homme sur la Lune. On a du mal à réaliser ça. Et c'est vrai que ça a été une affaire, disons, politique, mais au bon sens du terme. Et la Chenal, c'est vrai, le dit bien dans le texte qu'a rappelé Stéphane Bern. C'était une affaire de drapeau pour Herzog. C'était une affaire de cordée pour la Chenal.
Mais justement, l'histoire a éclipsé en quelque sorte Louis Lachenal, qui a pourtant réalisé au fond le même exploit qu'Herzog. C'était une volonté d'Herzog, vous pensez?
Oui, on va pas dire du mal, je dirais pas de mal de Maurice Herzog, beaucoup a été dit sur lui, mais c'est vrai qu'il pratiquait tout de même le culte du chef. Et il s'est un peu approprié une réussite qui, comme vous le disiez, est d'abord et avant tout une réussite collective. C'est une affaire de cordée, faut pas oublier la Chenal, faut pas oublier non plus Terray et Rébuffa qui ont sauvé la vie d'Herzog et de la Chenal. Donc, je suis un peu réservé tout de même sur cet aspect de la personnalité de Maurice Herzog, que sa fille, d'ailleurs, Félicité, a très bien mis en exergue dans son livre, qui est un très beau livre, mais un livre un peu triste. Et je voudrais comparer, si vous me permettez, la personnalité d'Herzog avec celle d'un autre très grand alpiniste français, Pierre Mazeaud. Pierre Mazeaud, je suis pas objectif, c'est mon grand frère. C'est mon grand frère en montagne. Il m'a emmené dans une de ses expéditions en Himalaya. Il est très différent, c'est-à-dire qu'il a beaucoup plus l'esprit collectif. Pour lui, la montagne, c'est d'abord une affaire d'amitié et il n'éclipse jamais les autres. Donc j'ai un immense respect, une immense amitié pour Pierre Mazeaud et je comprends que la personnalité de Momo... Et c'était davantage discuté.
Momo, c'est comme ça qu'on
le Momo, tout le monde l'appelait Momo. D'ailleurs, la Chenal, Terray, Rébuffa l'appelait Momo.
Fascination, émerveillement, peur, joie, fierté, beauté, paix, sacré, jubilation, découragement, triomphe, souffrance, frustration, injustice, voire horreur. C'est d'après votre dictionnaire amoureux à peu près tout ce que la montagne vous inspire. Quand on dit la montagne, elle se mérite, c'est pas qu'une phrase, hein, c'est...
Ah oui, on pourrait dire encore tellement d'autres choses sur la montagne, sur les motivations de ceux qui y grimpent, qui sont toujours très mystérieuses au fond.
Et différentes, parce que vous avez dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure, vous avez dit, pour moi c'était plutôt un défi personnel, genre je vais passer 8000, mais il y a aussi des alpinistes qui apprennent la montagne comme quelque chose de collectif, une aventure humaine, une amitié aussi, vous dites.
C'est tout à fait ça, et il y a de multiples aspects dans la cordée. Moi ce que je retiens peut-être surtout, c'est que la montagne, comme la haute mer... nous ramène à ce que nous sommes réellement. C'est-à-dire, pas grand-chose.
Oui. Face aux éléments. Et donc, justement, Frédéric Terrier, la peur fait partie aussi des émotions que ressent l'alpiniste. C'est-à-dire, la peur, il faut la maîtriser, parfois elle prend le dessus. Justement, puisqu'on parle d'Herzog et Lachenal, ils ont eu peur, forcément, quand on arrive au palier des 8000 mètres. Ils ont peut-être commis des erreurs, parce que la peur, le manque d'oxygène, le froid et la peur, ça peut faire commettre des erreurs.
Tout le monde a peur en montagne. Faut pas croire les alpinistes qui vous disent qu'ils n'ont jamais peur. Ce sont des inconscients et vaut mieux les fuir que les mettre dans sa cordée. Mais la peur est un signal que vous envoie la nature et qui est souvent très très utile. Elle vous empêche de commettre l'erreur. Et là, on bute sur la difficulté que rencontrent beaucoup d'alpinistes, qui est le problème du renoncement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la peur vous dit « Attention, là, tu franchis la ligne rouge. » Et à ce moment-là, il y a le choix entre « Je continue, je descends. » Et les plus sages redescendent. Je donne l'exemple de Marc Battard, parce que c'est un ami, c'est un grand himalayiste. Lui, il explique bien ça dans ses livres, il savait renoncer au bon moment. Et en fait, Stéphane, ceux qui renoncent, c'est ceux qui restent en vie. C'est ceux qui restent en vie. Parce que beaucoup sont restés là-haut, parce qu'ils ont franchi cette ligne rouge, ils n'ont pas tenu compte de leur peur.
Qu'est-ce que ça représente? On donnait cette anecdote tout à l'heure, que Herzog perd un gant au sommet de l'Annapurna. Dit comme ça, qu'est-ce que ça fait de perdre un gant à 8 mètres d'altitude?
C'est très intéressant parce que moi, il m'est arrivé, toute proportion gardée, hein, ouais. Moi, je suis un alpiniste modeste, mais enfin, je suis quand même allé en haute altitude. Moi, c'est pas un gant que j'ai perdu un jour en descendant du Hidden Peak avec Mazo, c'est mon crampon. J'ai perdu un crampon. Et c'est là où on voit que dans l'alpinisme, tout est affaire de petits détails. C'est-à-dire que la perte de mon crampon m'a complètement déstabilisé. J'ai commencé à avoir peur, à avoir froid, à être épuisé. Et je pense que si Mazo n'avait pas été derrière moi pour me botter le cul, disons les choses telles qu'elles sont, non, tu ne mourras pas, Frédéric, pas question. D'abord, faut que je te ramène au Conseil d'État. On était tous les deux membres du Conseil d'État. Que diraient mes collègues si je te l'avais laissé sur le sommet? Et donc, vous voyez, c'est une affaire de détails. Ça peut vous déstabiliser complètement.
Mais Maurice Herzog fut le premier à gravir un 8000. D'ailleurs, il l'a écrit premier 8000. Ouais. Mais beaucoup d'autres ont réalisé des exploits qui sont entrés dans la légende. Je pense par exemple, il y a l'Everest en 1953, c'est d'ailleurs le même jour que le couronnement d'Elisabeth II.
C'est pas pratique.
Si, parce que les gens ont parlé que c'était des Anglais, évidemment. Donc c'était, on appelait ça la nouvelle ère élisabéthaine. Vous vous en souvenez, j'imagine, ouais, Frédéric. Ouais. Il y en a d'autres qui vous ont inspiré.
Mes idoles en montagne sont nombreuses. Bon, je vais en citer quelques-uns quand même. Edward Whymper. Oui. Whymper. Premier au Cervin, 1865. Oui. Un truc incroyable. Le drame qui se passe à la descente et cet homme après est brisé pour toute sa vie. Il n'y était pour rien, le pauvre. Mais enfin, quand même 4 morts sur 7 à la descente.
Un bon bilan.
Reinhold Messner. Alors pour moi, c'est le dieu des dieux en montagne, c'est l'homme des 14-8000, c'est lui...
Ça veut dire qu'il a fait 14 fois 8000 mètres?
Non, il a fait les 14. C'était le premier à faire les 14-8000 de la planète. D'autres l'ont fait après.
C'est le grand chelem, si vous voulez.
C'est le grand chelem. Et alors surtout, lui avait inventé une technique nouvelle qui a révolutionné l'himalayisme. C'est-à-dire que au lieu de faire une expédition lourde avec 150 porteurs, 9 tonnes de matériel, des camps successifs en altitude, lui avait une technique qui était sac au dos. Et hop, on va jusqu'en haut, on s'arrête pas. Pourquoi? Parce qu'il faut rester le moins longtemps possible là-haut, au-dessus de 7000, ce qu'on appelle un peu bêtement la zone de la mort, mais enfin, ça existe quand même.
Vous êtes déjà monté si haut?
Moi, je suis monté à 6004.
Ah oui, c'est joli quand même.
Mais dans l'expédition Mazo sur le Hidden Peak, parce que malheureusement, on a dû renoncer à cause du mauvais temps. Mais j'aurais bien aimé monter plus haut.
Alors, il y a beaucoup d'alpinistes qui ont vaincu l'Annapurna aujourd'hui, ou ça reste un club très fermé?
Non, ça reste un club assez fermé, même si la fréquentation augmente considérablement. Alors, c'est pas du tout le niveau de l'Everest. Hein. L'Everest, c'est... maintenant, vous donnez 50 000... Il faut les avoir. 50 000 dollars, et on vous fait monter à l'Everest en vous tirant comme un... Voilà.
C'est horrible.
Avec oxygène, etc.
Oh, le monde peut monter à l'Everest, maintenant.
Tout le monde qui a une condition physique... Oui. Convenable,
donc pas nous,
avec oxygène, parce que sans oxygène, c'est une autre paire de manches. Oui.
On rappelle tout le monde qui a 50 000 dollars, c'est pas tout le monde, Stéphane. On rappelle évidemment pour vous, c'est une piécette, pour la plupart des gens, c'est quand même une belle somme, il faut les réunir. C'est des belles vacances.
C'est-à-dire, n'importe qui se peut se faire financer, peut monter.
Alors que l'Annapurna demeure une montagne dangereuse. D'ailleurs, quand on regarde les statistiques, elle l'est objectivement, puisque le taux de mortalité, ça n'a pas beaucoup de sens, mais tout de même, c'est le rapport entre le nombre de morts et le nombre d'arrivées au sommet est dans les 30%. Ça fait quand même pas mal, alors que l'Everest, c'est 4% seulement de taux de mortalité.
En tout cas, vous êtes passionné par tout ce qui touche à la montagne, puisque dans votre livre Montagne, vous avez rassemblé comme ça tous les textes des auteurs. Ça, la montagne a toujours fasciné depuis l'empereur Adrien.
Non, mais l'histoire de la montagne est extraordinaire parce que, par exemple, on se demande toujours qui a été le premier alpiniste. Par alpiniste, j'entends celui qui grimpe sur un sommet, non pas par nécessité, les militaires, les chasseurs de chamois, mais ceux qui grimpent uniquement pour le plaisir. Le premier, c'était l'empereur Adrien. Adrien qui a gravi l'Etna uniquement pour pouvoir, au lever du soleil, contempler le paysage. Puis il y a eu Pétrarque, et donc je commence cette anthologie par Pétrarque. C'était quand même en 1336, ça fait un bout de temps. Alors Pétrarque, lui, a fait l'ascension du Mont Ventoux, et il la raconte avec une espèce de romantisme à la Jean-Jacques Rousseau, quatre siècles avant Rousseau. C'est un texte extraordinaire. Prenez un gamin ou une gamine de 4 ans et vous le mettez au pied d'un tas de cailloux ou d'un tas de sable.
Il va monter.
Quelle est sa réaction immédiate ?
Il monte.
C'est de grimper dessus. Ah oui. Il y a chez l'homme un instinct ascensionnel. Alors Rousseau allait jusqu'à dire que en élevant son corps, l'homme élève aussi son esprit.
Enfin, sauf à une certaine hauteur, parce qu'après, oui, il n'y a plus de
cœur. Exactement. On redescend.
Et puis Voltaire s'était beaucoup moqué de lui, d'ailleurs, en disant « Ça se saurait si, ça se saurait si l'homme élevait son esprit. »
Oui, bah, donc les plus grands seraient plus intelligents que,
voilà.
Que oui, les plus petits. C'est bien pour vous, Mathieu. Merci beaucoup, Frédéric Thiriège, de nous avoir emmenés sur les sommets. Je rappelle le titre de vos deux livres, qui sont des déclarations d'amour à la montagne. Le dictionnaire amoureux de la montagne, paru chez Plomb, et Montagne, disponible aux éditions Dumont. Blanc. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci.
Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter elle. Elle nous raconte des histoires comme si elle y était, en faisant parler les morts. Et oui, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, vous faites aussi parler les murs. Hein, en particulier le mur de Berlin, avec un homme qui l'a fait, le mur. Il s'appelait Konrad Schumann.
Absolument, Stéphane, mais vous ne croyez pas si bien dire, j'y étais tout à fait. Hein. C'était mon lieu de villégiature préféré dans les années 70. J'allais en Allemagne de l'Est. Je peux vous dire qu'il n'y avait pas beaucoup de touristes à cette époque. Alors, évidemment,
vous y faisiez quoi ?
Oui. Eh bien, j'y priais beaucoup. J'y faisais du Bibelarbeit en allemand, en bas-saxon, n'y comprenant pas un mot. Hein. J'étais réveillé au corps de chasse par des cantiques à 6h du matin. Oui. Bon, enfin, c'était une autre époque, temporomoresse. Alors, le problème, c'est que quand la RDA a été créée en 49, dès le début de sa création, il y a eu une véritable hémorragie de population vers la RFA. Hein. Les gens avaient bien compris ce qui allait se passer. On estime qu'entre 49 et 61, il y a près entre 2,5 et 3,5 millions d'Allemands qui ont fui la RDA pour la RFA. Et comme c'était essentiellement des jeunes, eh bien, c'est un gros problème en puissance pour l'économie d'Allemagne de l'Est. Surtout qu'à Berlin, c'était très facile de passer à l'Ouest. Il suffisait de prendre le métro. Et quand on commence à entendre la rumeur d'une fermeture possible des deux zones, hein, Est et Ouest, eh bien, plus de 47 000 citoyens, en deux semaines d'août, passent depuis l'Allemagne de l'Est à l'Allemagne de l'Ouest via Berlin. Alors, c'est là que commence l'opération Muraille de Chine. C'est le nom du projet de construction du mur de Berlin et ça commence entre le 12 et le 13 août 61. Tous les moyens de transport entre les deux parties de la ville sont supprimés. On dispose 15 000 soldats allemands et soviétiques le long de grillages et de barbelés. Parce qu'évidemment, dans un premier temps, ce mur, il faut le construire. Donc, on commence par mettre des barbelés. Ça fera un mur qui fait 46 km dans la ville et quand il sera terminé, en tout, 160 km autour de Berlin. Le 15 août 1961, donc le mur est en construction depuis 2-3 jours, Konrad Schumann, qui est un jeune soldat de 19 ans, est envoyé à l'intersection des rues Bernauer et Rupiner pour garder la zone garnie de barbelés et qui sépare donc Berlin en deux zones depuis 3 jours. De l'autre côté des barbelés, il y a des Allemands de l'Ouest qui sont là, qui lui crient comme Rüber, allez viens de ce côté, rejoins-nous. Il y a une voiture de police ouest-allemande qui s'est arrêtée là et qui assiste à la scène. Schumann tergiverse un peu parce qu'il n'est pas tout seul, il y a d'autres gardiens d'Allemands de l'Est qui sont à côté. Et lui, il se dit, mais oh là, si c'est bien gentil, c'est barbelé, mais si je saute, je vais me faire tirer dessus comme un lièvre. Et bien, tout d'un coup, malgré tout, il laisse tomber sa mitraillette, il bondit par-dessus les barbelés et s'enfourne dans la voiture de police qui l'emmène aussitôt hors de la zone. Ce qui est extraordinaire, c'est que sur place, il y avait un photographe ouest-allemand, Peter Leibling, qui a photographié, mais il a filmé toute la scène. Et cette photo de Konrad Schumann sautant par-dessus le barbelé est devenue depuis une image emblématique de l'ère de la guerre froide. Alors, Schumann, ensuite, bien sûr, alors on a fait beaucoup mousser l'événement, puis on l'a interviewé. Il a raconté qu'il avait décidé de fuir la RDA parce qu'il avait vu une petite fille qui était en vacances chez sa grand-mère côté RDA, que des gardes avaient empêché d'aller retrouver ses parents de l'autre côté des barbelés. Il s'est dit, ça, c'est pas possible, c'est inhumain, et voilà à quelle sauce on risque d'être mangé si on reste de ce côté du mur. Bon, par la suite, il est allé s'installer en Bavière, il y a rencontré sa femme Kunigunde, dans la ville de Günzburg. Il a travaillé chez Audi pendant 27 ans. Il s'est beaucoup entremis pour faire venir d'autres personnes d'Allemagne de l'Est jusque à Günzburg, là. Et puis, il n'a jamais cessé d'envoyer des colis alimentaires à sa famille restée à l'Est. Après la chute du mur le 9 novembre 89, il a déclaré qu'enfin, il se sentait libre. Il avait toujours vécu dans la peur que la Stasi ne lui envoie des vaupeaux pour le liquider, des barbouzes, parce que il était quand même une personnalité emblématique de toute cette histoire. Il a tenté aussi de revenir dans son village natal après l'effondrement du mur, mais en fait, il s'est rendu compte, ça l'a beaucoup désespéré, qu'on le considérait davantage comme un traître que comme un héros. Et là, il a sombré dans la dépression, et cette histoire finit assez tristement parce que le malheureux Konrad Schumann a mis fin à ses jours le 20 juin 1998, en se pendant dans son verger près de la ville de Kipfenberg en Haute-Bavière. Bon, il était tout à fait dépressif. Mais enfin, il a été le premier soldat allemand de l'Est à fuir. À sa suite, 2700 en feront autant. C'est quand même une belle histoire. Alors, évidemment, si vous allez à Berlin, incontournable musée du mur à Checkpoint Charlie. C'est l'un des musées les plus visités de Berlin, qui a ouvert juste après la construction du mur en 62. Et alors là, on voit tous les subterfuges moyens par lesquels les Allemands ont essayé de fuir la RDA, montgolfière, mini sous-marin, valises soudées entre elles. Il y a un Français qui a soudé deux valises entre elles pour faire évader sa petite amie. Elle était là, lovée comme un fœtus à l'intérieur des deux valises, et il est passé. Évasion par des tunnels. L'un d'entre eux est creusé par 35 étudiants qui sont relayés pendant 6 mois pour pouvoir partir. 75 galeries de ce genre ont été creusées. Hein. Il n'y en a qu'une vingtaine qui servira, mais enfin, Berlin était devenu un vrai gruyère. Et puis, il y a un certain Kurt Wadel qui, lui, a bricolé le coffre d'une coccinelle. Il est parvenu à faire passer 55 personnes en 2 ans. Il y a même eu une tyrolienne, une fausse vache. Fausse vache qui était une vache d'exposition, et il y a 2 personnes qui se cachaient à l'intérieur. Enfin, c'est un musée très, très pittoresque. Voilà, une époque à laquelle on ne pouvait pas, comme ça, on ne pouvait plus passer de Berlin-Est à Berlin-Ouest, et Konrad Schumann aura été un véritable pionnier.
Merci beaucoup, Clémentine.
Clémentine, vous avez beaucoup prié dans votre jeunesse. Mmh. C'est le moment de renouer avec ces bonnes habitudes. Il faut prier pour votre victoire dans le quiz.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Beaucoup de conversations européennes dans cette émission. Le débat se prolonge toujours, mais c'est le moment important de cette émission. Durant une vie, tout homme rencontre de cruelles déceptions. Oui. Néanmoins, certains hommes en rencontrent plus que d'autres. Sur ces hommes malchanceux, le sort semble comme s'acharner.
J'ai recraché tellement de noyaux de cerises dans la terre, j'ai jamais rien vu pousser.
Hélas, c'est rarement au moment du quiz que les choses s'arrangent pour vous, Stéphane. Jouons à Bern ce bilan. Question numéro 1, elle est pour vous.
Allez, crachez votre noyau là.
Je crache ma bile et mon noyau. Quand le soir, Stéphane, vous prenez votre petite soupe devant Slam sur France 3, vous l'ignorez peut-être, mais le mot soupe vient du 16e siècle. Ça vient du latin soupa, qui signifie grosse cuillère. Vrai ou faux? Soupa viendrait du latin grosse cuillère.
D'où vient soupape alors?
Non, soupa, S-U-P-P-A, je précise pour les linguistes.
Je sais pas, c'est plausible, mais...
Vous avez fait l'histoire des mots l'année dernière, c'est pas
une histoire d'expression, pas des mots. La soupe...
J'ai vu passer cette histoire, mais je peux malheureusement pas me souvenir de tout, mais ça me dit quelque chose. J'ai vu passer ça.
Vous voulez dire, c'est donc l'ustensile qui sert à la déguster, qui aurait donné son nom à la soupe. J'aurais davantage pensé que c'était
Le légume ou la matière elle-même?
La matière elle-même ou le contenant. Je veux dire que c'est faux.
Vous avez gagné.
J'ai eu peur, Stéphane, pour vous, mais vous avez bien répondu. Faux. Ça signifie tranche de pain sur laquelle on verse le bouillon. Donc la soupe, si on veut être vraiment correct, ça désigne le pain qu'on trempe et non le breuvage lui-même. D'ailleurs, on dit tremper la soupe. Voilà Stéphane, pour votre information. Question numéro 2 pour vous Clémentine. Dans les années 50 aux États-Unis, à Las Vegas, une attraction était très à la mode. Les hôtels organisaient des circuits pour assister à des explosions atomiques en live. À cette occasion, on organisait l'élection de Miss Bombe Atomique. Vrai ou faux? Las Vegas, souvenez-vous, c'est là que vous êtes marié probablement avec votre mari.
Des explosions atomiques
en mode spectacle.
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, je dis faux. Il y a peut-être. On essaie de. Enfin, ça peut pas. Non, on ne disposait pas à Las Vegas de quoi de radium, d'uranium pour faire sa petite explosion atomique dans son salon. Non, je dis non.
Vous avez perdu.
Vous avez perdu, Clémentine. Les explosions, des mini-explosions atomiques, avaient lieu à une vingtaine de kilomètres des touristes, mais tout était fait pour la sécurité, puisqu'on donnait aux observateurs des lunettes noires pour éviter les radiations, ce qui devait marcher super bien. Et en plus, on faisait attention au sens du vent, et ensuite, on buvait des cocktails baptisés atomiques. Des soirées thématiques étaient proposées. Miss Bombe Atomique était habillée d'un tutu en forme de champignon atomique. Quel bon goût, ces Américains.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Je vous présente Hans Schaff. Il a été le responsable des interrogatoires de la Luftwaffe sous le régime nazi. Autrement dit, c'était pas un rigolo. Et pourtant, il a été retrouvé dans les archives de l'époque un mode opératoire étonnant. Parfois, il utilisait les chatouilles. Ce qui a été plusieurs fois efficace, il a réussi ainsi à obtenir des renseignements espérés. Vrai ou faux?
Guili, guili, guili. Comme dans ce film avec Fernandel où on lui... On chatouille sous les pieds avec une plume.
Un film avec Fernandel. Oui, alors, toute une génération d'écart. Alors, Stéphane, oui, mais... d'après vous, les chatouilles faisaient-ils partie de l'arsenal des techniques nazies d'interrogatoire?
Écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas?
Pourquoi pas n'est pas une réponse.
Oui, je dirais oui.
Vous dites oui, c'est-à-dire que les nazis torturaient en chatouillant. C'est votre réponse, Stéphane.
C'est non, ma réponse.
Voilà, vous êtes quand même le plus souvent... Le monsieur histoire de Lyon, qui pense donc responsable de
la Luftwaffe
pratiquer les chatouilles, effectivement. Alors non, ce n'est pas... Non, le monde n'est pas ainsi fait, Stéphane. Les nazis étaient assez peu adeptes des chatouilles. Non, en revanche, la méthode d'interrogatoire de Hans Schaff est réputée. Ah, elle était étonnante, c'était la gentillesse. Bienveillant avec les prisonniers, il nouait une relation privilégiée. Il partageait même un dîner préparé par son épouse et il arrivait comme ça à récupérer beaucoup de renseignements. Cette méthode a ensuite été utilisée par la police américaine qui, pendant les interrogatoires, soufflait le chaud et le froid. C'est l'invention de la célèbre méthode « good cop, bad cop ». Clémentine Portier-Kettenbach. Un point sur le score. 1-0 pour Stéphane. Il n'y a pas beaucoup de points qui ont été marqués. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Valérie André, si tout va bien, aura l'année prochaine 100 ans. Résistante, elle a été la première femme générale, la troisième femme à être Grand Croix de l'Ordre National de la Légion et la première à être Grand Croix de l'Ordre National du Mérite. Est-elle de la famille de Xavier Bertrand?
Comment voulez-vous que je le sache? Alors, elle a peur. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Madame...
Valérie André.
Madame Valérie André. Alors, ou bien c'est oui, de toute façon, je j'en ai aucune idée, ou bien c'est parce qu'elle est dans le Nord-Pas-de-Calais et que c'est lui qui a demandé à ce qu'elle soit honorée ou qui ira lui apporter des chrysanthèmes dans sa retraite.
Écoutez, on apporte des chrysanthèmes en général.
Oui, c'est plutôt après.
C'est après, c'est l'étape d'après, après, la même retraite.
Eh bien, je vais répondre oui, je n'en ai absolument aucune idée.
Vous avez encore perdu.
Encore perdu, mais qu'est-ce qui vous arrive, Clémentine? C'est la tante par alliance d'André Santini, bien sûr, actuel maire d'Issy-les-Moulineaux, un homme politique qui a beaucoup marqué par son humour. Il a dit « La différence entre un cocu et un député, c'est que le premier n'est pas obligé d'assister à la séance. » Question numéro 5. Stéphane a gagné.
Ah bah non,
c'est
il
fini.
A gagné. Et non,
je suis coupé dans mon élan. Stéphane,
ça
vous avez remporté le quiz.
Oui, cette saison, c'est...
Sur les nazis et les chatouilles.
Oui, tout en répondant n'importe quoi. Comme quoi, vraiment, ce quiz est bien organisé. C'est fou.
C'est fou. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement Vôtre.
Vous êtes au cœur d'Historiquement Vôtre. Deux heures d'histoire les plus cool que vous puissiez imaginer, sauf pour nos personnages du jour, Mathieu. Oui.
Effectivement, Stéphane, le mot cool convient assez peu à nos personnages. Trois aventuriers hors normes, caractérisés par un incroyable goût du risque. Un peu comme nous, Stéphane. Comme la fois où l'ascenseur tardait à arriver et que je vous ai dit « Allez, je suis fou, je prends l'escalier ».
Faites gaffe quand même. Vous êtes si casse-cou, Mathieu. Oh, hein. Mais pas autant que notre deuxième personnage du jour. Après Maurice Herzog et son Annapurna, je vous raconte Edward Whymper et son Cervin. Un sommet considéré comme maudit par les alpinistes. Jusqu'en 1965, donc, et le triomphe de Whymper.
Un triomphe, c'est comme ça aussi que Richard Branson nous a présenté sa dernière opération de com', lui embarquant à bord d'un vaisseau de sa compagnie Virgin Atlantic et dépassant la stratosphère pour aller faire un petit tour dans l'espace. L'occasion de retracer l'itinéraire du plus sympathique des milliardaires britanniques, après James Dyson, bien sûr, que j'embrasse et dont les produits décidément ne me déçoivent jamais.
Sans oublier nos célèbres chroniques.
Eux non plus, ils sont
pas
décevants.
Oui, ils sont pas décevants et puis ils montent au sommet. David Cassel-Lopez qui nous raconte les origines d'un mot aujourd'hui.
Oui, le mot « maman ». Qui est un des mots en fait les plus incroyables de la langue. Je vous raconterai pourquoi et d'où il vient.
Et puis Olivier Pouls qui a des furieuses envies de mouclade.
Maman et mouclade, ouais, c'est proche.
On apprend deux mots aujourd'hui.
Ouais, vous allez apprendre deux mots, vous allez surtout apprendre ce que c'est que la mouclade, puisque visiblement vous ne savez pas ce que c'est. Je vous donne juste un indice sur un ingrédient qui compose la mouclade, c'est le curry.
Oh. Ouh, ça doit être bon alors.
Ouais, mais c'est pas des moules au curry, c'est une mouclade.
On a le temps de réfléchir. Enfin, comment l'oublier ? C'est devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs de triche, de coups bas et de mauvaise foi. La lutte finale, ce combat fratricide qui oppose chaque après-midi Pouls, Castello et moi-même. Et donc, seul Stéphane sort indemne, vu que c'est lui qui pose les questions. Divisé pour mieux régner, c'est moche, Stéphane.
C'est pratique, surtout.
C'est très pratique. Mais pour l'heure, découvrons la vie aventureuse de notre deuxième personnage du jour. Ah, les Alpes. Pittoresque montagne avec ses modestes chalets dans la petite bourgade de Gstaad, ses jacuzzi, ses restaurants étoilés et son champagne millésimé qui coule à flot.
J'adore.
Oubliez, Stéphane, tout ce que vous connaissez sur les Alpes et racontez-nous plutôt ce qu'est venu y faire Edward Whymper, un homme qui est monté haut, très haut.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement Vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Oui, avec Edward Whymper, retour en Europe et plus précisément dans les Alpes, effectivement. Et si les montagnes alpines ne sont pas aussi hautes que celles de l'Inde ou du Népal où nous étions avec Maurice Herzog tout à l'heure, on y trouve tout de même 82 sommets qui culminent au-dessus de 4000 mètres d'altitude, dont quelques légendes. Le Mont Blanc, bien sûr, mais aussi la Meije, les Grandes Jorasses, l'Aiguille Verte ou le Cervin. Et le Cervin, c'est la montagne par excellence. Une pyramide quasi parfaite, quatre faces dont les arêtes se précipitent vers le ciel pour se rejoindre à 4478 mètres au-dessus du sol. Rien qu'à le regarder, on comprend que le gravir sera tout sauf une partie de plaisir. Et puis, d'abord, pourquoi atteindre le sommet ? Après tout, la montagne est longtemps restée une affaire de montagnards et un montagnard ne prend pas de risque pour rien. Jusqu'au dernier tiers du XVIIIe siècle, on s'aventurait au-dessus des sapins uniquement pour la chasse ou la contrebande, parfois pour arracher aux parois quelques cristaux de roche qui se revendaient ensuite fort cher. L'alpinisme moderne, lui, n'apparaît vraiment qu'au milieu du XVIIIe siècle lorsque quelques jeunes gens de bonne famille, et le plus souvent anglais, se prennent à grimper aussi haut que possible pour rien d'autre que pour la beauté du sport, pour le plaisir d'aller là où personne n'était encore allé. Les gens du cru les prennent bien un peu pour des dingues dans les premiers temps. Mais quelques-uns ne tardent pas à comprendre que guider ces jeunes citadins peut devenir un métier comme un autre. Et voilà comment apparaît un premier embryon de tourisme alpin à la fin du XVIIIe siècle et jusqu'au milieu du XIXe. Edward Whymper paraît bien loin de tout cela. Lorsqu'il naît à Londres en 1840, son destin semble se limiter à reprendre l'entreprise de son père, imprimeur et graveur de son métier. Mais Whymper a d'autres ambitions. Avec l'enthousiasme de la jeunesse, il s'imagine déjà aventurier, millionnaire et pourquoi pas premier ministre. Il sera alpiniste et pas des moindres. Son histoire avec les Alpes débute en 1860 lorsque son père l'envoie de l'autre côté de la Manche, en France, pour y réaliser quelques gravures au service de l'Alpine Club, l'un des premiers grands clubs d'alpinisme anglais. Whymper n'est encore jamais monté bien haut, mais il se passe à l'évidence quelque chose entre lui et les montagnes. Il commence à crapahuter le long des crêtes avant de s'aventurer de plus en plus haut, toujours à l'affût d'un autre défi, d'une nouvelle difficulté ou d'une nouvelle première de prestige comme le pelvoux, la barre des écrins ou l'aiguille d'argentière. Il est endurant, audacieux et jouit surtout d'un excellent sens de l'orientation, toujours utile quand il faut trouver comment et par quelle voie lancer le dernier assaut contre un sommet. Partout où il passe, dans les auberges ou les refuges, on garde le souvenir d'un jeune homme droit et ambitieux, exigeant, mais aussi d'un sacré emmerdeur, qui exige énormément de ses compagnons et de ses guides, des grandes figures de l'histoire des Alpes comme Christian Elmer ou le chamoniard Michel Croz. Et déjà, Whymper a une obsession. Le Cervin, la montagne impossible. Le gravir, c'est défier la roche, la pierre et le vent, et peut-être même Dieu en personne. En 1865, Edward Whymper a déjà tenté l'ascension de nombreuses fois, sans succès. Il a pourtant suivi à plusieurs reprises l'un des meilleurs, le guide italien Jean-Antoine Carrel, mais en échouant toujours à cause du mauvais temps. En juillet, Whymper apprend que Carrel a loué ses services à une autre cordée, italienne celle-ci. Piqué au vif, il décide de tenter le tout pour le tout. Par chance, le guide Michel Croz est au même endroit que lui à cette date, à Zermatt. Ni une ni deux. Whymper convainc Michel Croz de se joindre à lui avec ses compagnons. Le révérend Charles Hudson et son ami Robert Adeau. De son côté, Whymper est accompagné d'un jeune aristocrate, Francis Douglas, et de deux guides locaux, Pierre Taugwalder et son fils. Imaginez dans l'urgence, l'ascension se déroule pourtant avec une facilité déconcertante. Les sept hommes se lancent dans une voie peu explorée jusqu'alors. Partir de Zermatt, c'est pourtant affronter la face la plus impressionnante et la plus accidentée du Cervin. Oui, mais Whymper, poussé par sa seule intuition, décide de se lancer par l'arrêt du Hörnli. Et il a vu juste. En moins de deux jours, la cordée réalise un exploit que tout le monde pensait impossible. Parti le 13 juillet 1865, Whymper et Michel Croz atteignent le sommet du Cervin le lendemain à 13h40, précisément pour ce qui sera, dira plus tard Whymper, une heure bien remplie de vie glorieuse. Depuis le sommet, l'Anglais a le plaisir de voir la cordée concurrente abandonnée. De loin, Jean-Antoine Carrel a vu, lui, apparaître les pantalons blancs de la cordée Whymper au sommet du Cervin. Mais le Cervin a un dernier tour dans son sac. À la montée succède une descente difficile, encore compliquée par le vent. Un peu après 15 heures, le cadet de la cordée, Robert Adeau, rate un appui et vient heurter Michel Croz. Déséquilibré, le chamionnard chute et entraîne avec lui le révérend Hudson, puis Robert Adeau et Francis Douglas. Alors que toute la cordée va disparaître, la corde casse et sauve miraculeusement la vie de Whymper et de ses deux derniers compagnons qui voient leurs amis mourir sous leurs yeux d'une interminable chute qui ne se termine que 1200 mètres plus bas. Pierre Taugwalder et son fils sont sidérés et en état de choc. Whymper, pourtant bouleversé, parvient de son côté à reprendre la maîtrise de lui-même et à les ramener à Zermatt avant de s'enfermer dans sa chambre plusieurs jours durant, marqué à vie par un drame qu'il n'oubliera jamais, au point de ne plus jamais tenter une première majeure dans les Alpes. Plus tard, il confiera à un journaliste. « Chaque nuit, je vois glisser mes camarades sur le dos, les bras étendus, en ligne et dans l'ordre, à la même distance, bien rangés. » Pour l'heure, la mort des quatre hommes provoque un scandale. L'enquête montre pourtant qu'il n'y a eu aucune faute ni négligence, et surtout que personne n'a coupé la corde pour sauver sa vie. Ce qui met fin à une rumeur qui avait couru dans les journaux. Mais à Londres, on crucifie Edward Whymper, accusé d'être le premier responsable de ce drame atroce. Et pourquoi ? Pour arriver le premier au sommet d'une montagne ? Le débat ne s'est jamais vraiment éteint. Le débat,
c'est l'oxygène, ça te manque en altitude.
Le débat ne s'est jamais vraiment éteint depuis sur la nature même de l'alpinisme. Ce défi qui consiste à tromper la mort à chaque arête et à chaque crevasse. La vengeance du Cervin, elle, n'a jamais cessé. Depuis l'ascension de 1865, 500 autres alpinistes y ont trouvé la mort.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler d'Edouard Whymper, nous avons le plaisir d'accueillir une autre grande alpiniste. Bonjour Catherine Destivel.
Bonjour à vous.
Bonjour Catherine Destivel. Vous êtes une grimpeuse et alpiniste de grand renom. Vous avez collectionné les records et les honneurs en cascade. Puis vous êtes lancée dans l'alpinisme. Aujourd'hui, vous êtes éditrice. Vous dirigez les éditions du Mont Blanc qui viennent de rééditer Edouard Whymper, aventurier, reporter, alpiniste. Une biographie écrite par Frank Smith, parue pour la première fois, je crois, en 1940, qui raconte la vie de cet alpiniste qui fut le tout premier à gravir ce sommet du Mont Cervin. Catherine Destivel, vous restez à ce jour la première et la seule femme à avoir également gravi en hiver et en solo le Cervin. Alors, après ce récit, ça fait encore plus froid dans le dos. Ah oui. J'imagine que c'est l'une des expériences les plus fortes de toute votre vie.
J'en ai eu d'autres, mais... oui, c'était une belle expérience. Alors, ce qu'il faut spécifier, c'est que c'était par une voie différente. Et ce que j'avais fait, c'est une face nord. Ça se trouve, ça a été fait aussi en hiver par une femme sur une arête, hein, j'en sais rien.
Mais vous en parlez avec beaucoup de modestie quand même.
Il faut dire les choses.
Est-ce que malgré tout, les techniques ont évolué, ce qui fait que c'est quand même peut-être plus facile aujourd'hui, même si ça reste monstrueux le Cervin, plus facile qu'à l'époque où le Whymper le fait?
Alors à l'époque où Whymper le faisait, qu'est-ce qu'ils avaient comme matériel? Ils avaient uniquement une corde en chanvre qu'ils avaient entourée autour de leur taille et ils s'assuraient autour de béquilles de rochers qu'ils rencontraient pour assurer le suivant. Donc voilà, c'était une ascension comme ça, les pitons n'existaient pas, les mousquetons non plus, et dans leur sac à dos, qui était une espèce de besace, il y avait des choses assez lourdes, parce que ils buvaient c'était pas rare d'avoir un litre de rouge, quoi, enfin dans un sac. Et,
ah oui, pour monter.
Oui, et puis des grosses miches de pain, tout était assez lourd à l'époque, et donc aujourd'hui tout a été allégé, et puis surtout depuis 1910, les pitons et les mousquetons ont été inventés. Donc ça a changé complètement le jeu de l'alpinisme où en fait les alpinistes ont pu enfin s'assurer de façon correcte. On dit que c'est Adot qui est tombé, finalement il n'y a pas de preuve, personne n'a vu qui a tombé, qui a glissé quand ils ont tous dévalé la paroi. S'il y avait eu des mousquetons et des pitons, ça ne serait pas arrivé.
Edouard Whymper et ses compagnons ont marché en cordée, il n'était pas seul parce que en fait il ne faut pas imaginer l'alpinisme comme une activité solitaire, on est toujours entouré en fait.
Alors on est souvent encordé, soit à deux, soit à trois. Alors le Cervin est très dangereux à la descente. C'est-à-dire qu'à la descente, un guide ne doit pas emmener plus d'une personne. Parce que le Cervin, c'est une pente rocheuse assez facile. C'est des gradins, on monte comme ça, mais à la descente, c'est la même chose. Donc s'il y en a un qui tombe, il peut entraîner ce qui est arrivé à Whymper. Il peut entraîner l'autre. Et du coup, un guide se doit d'emmener qu'une seule personne pour éviter d'être entraîné dans la chute s'il avait deux personnes, par exemple.
Stéphane l'a raconté, Edouard Whymper, il était destiné à devenir imprimeur-graveur, comme son père. Comment ça se fait qu'il soit pris de passion comme ça d'un coup pour l'alpinisme? C'est quoi le déclic?
Il s'est pris de passion, j'ai l'impression, pour exister. C'est-à-dire qu'il s'est aperçu que quand il est arrivé au pied du Pelvoux, il a vu un des guides et là, il lui a dit « je ne suis pas arrivé ». Et il s'est dit « ah, et moi si j'y arrive, je vais devenir quelqu'un ». Et il a commencé comme ça. Il se trouve qu'il était assez doué. Donc, il parvient au sommet du Pelvoux et il s'est dit, j'enchaîne, je vais aller faire le Cervin, etc. Sauf que le Cervin, il a mis 5 ans parce que, en fait, Antoine Carrel avait eu pour mission d'empêcher Whymper de monter. À cause de, c'est le ministre des Finances à l'époque, Quintino Cella, qui ne voulait absolument pas qu'un Anglais mette à nouveau le pied sur ce sommet. Ils en avaient raflé déjà assez. Donc, Antoine Carrel a été chargé de faire le barrage. Donc, on dit qu'il a eu mauvais temps, mais en fait, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que Carrel veillait à ce que Whymper ne monte pas par le côté italien. Parce que le côté italien semblait plus facile, de loin.
Or, de loin.
De loin.
Mais en fait,
alors
de près,
qu'en fait, c'est le côté suisse était plus facile. En plus,
on disait que le Cervin portait malheur. En tout cas, il a une réputation et ça existe, ça. Est-ce que c'est... Comment on bâtit la légende d'une montagne en disant non, il ne faut surtout pas aller faire le Cervin parce qu'elle porte malheur?
Je sais pas, non, je dirais pas ça. Peut-être que c'est une montagne qui est plus compliquée qu'elle n'y paraît. C'est-à-dire que beaucoup de gens, c'est comme le Mont Blanc, attirent tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde veut faire le Mont Blanc. Le Cervin, c'est pareil. Symbolique. C'est quelque chose que même des non-alpinistes aimeraient gravir. Et du coup, comme la descente est compliquée, et je pense qu'elle porte malheur à cause de ça, mais elle pose, c'est pas malheur, c'est une montagne qui peut être assimilée à dangereuse, parmi les plus dangereuses, on va dire.
Catherine Destivel, avec Stéphane, nous, la plus haute montagne qu'on ait gravie, c'est la dune du Pilat, un été, un jour. On se pose forcément la question, qu'est-ce qui pousse quelqu'un à devenir alpiniste? Ça fait rêver, mais en même temps, c'est extrêmement dangereux. Vous, personnellement, c'est quoi votre trajectoire personnelle vers l'alpinisme?
Je crois que c'est un jeu d'enfant. Quand on arrive au sommet d'un n'importe quoi, même d'un perchoir dans un jardin d'enfant, on est content d'être en haut, quoi. Et une montagne, c'est pareil. C'est un jeu. C'est un jeu qui peut être effectivement dangereux, mais c'est un jeu qui absorbe la tête et l'esprit. C'est-à-dire qu'on est occupé à penser à comment on va faire, la stratégie, la technique, etc. Ce qui fait qu'on fait le vide complètement et c'est très agréable. Malheureusement, les accidents arrive souvent quand c'est plus facile, quand on y va souvent, quand oui. C'est comme la voiture. Voiture, on fait plus attention parce qu'on a l'habitude et boum, l'accident stupide arrive. Moi, j'en ai eu quelques-uns des accidents, mais à chaque fois, c'était pas vraiment dans l'action, c'était complètement stupide. Et voilà, c'est. Mais l'alpinisme, voilà, ne pardonne pas souvent. C'est. Mais, oui. Mais la voiture
pas
non plus.
Hein. Mais non plus, finalement. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Finalement, on prend plus de risques en conduisant. Surtout quand on a des bolides. Merci beaucoup, Catherine Destivelle. Je rappelle l'ouvrage que vous rééditez, Edouard Wimper, aventurier, reporter, alpiniste, une biographie écrite par Frank Smith est publié pour la première fois en 1940 et donc on peut retrouver aux éditions du Mont Blanc puisque vous voilà éditrice.
Exactement, merci.
Merci beaucoup. Merci à vous.
16h-18h sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces personnages de l'histoire qui n'ont eu de cesse que d'aller plus haut. Et maintenant que les plus hautes cimes des plus hautes montagnes ont toutes été conquises, il ne reste aux rêveurs du 21e siècle qu'un seul horizon, Mathieu, l'espace.
Voilà qui est fort joliment dit, Stéphane, et ce n'est pas étonnant puisque c'est moi qui vous l'ai écrit. En effet, aujourd'hui, les aventuriers ne rêvent plus de partir à l'assaut des sommets, mais des étoiles. Parmi eux, le fondateur de l'Empire Virgin, l'excentrique Richard Branson, qui a un message pour vous, Stéphane.
I'm Richard Branson, and I have a once-in-a-lifetime invitation for you. Would you like to travel to space?
Évidemment qu'on a envie de voyager dans l'espace, on a tous envie de voyager dans l'espace. Eh ben, c'est 250 000 $ de l'heure. Oui, c'est un poil plus onéreux que le jet ski, c'est vrai, mais songez aux stories Instagram que vous allez pouvoir faire là-haut, Stéphane. Ça changera vos abonnés de vos selfies devant l'abbaye de Saint-Geneviève-sur-Jouille. Richard, lui, il y est allé là-haut, en juillet dernier, pour le premier vol test de Virgin Galactic, sa compagnie dédiée au tourisme spatial. Et même si vous faites partie de ces gens qui, comme Olivier Pouls, se contrefoutent de l'espace, estimant qu'il n'y a aucun intérêt à aller dans un endroit où il n'y a aucun resto Michelin, il faut quand même reconnaître à Richard Branson le mérite d'être allé au bout de son rêve. Et surtout, d'être parti de quasiment zéro. Car Richard Branson ne naît pas avec une cuillère en argent dans la bouche. Ses parents sont certes magistrats, mais les Branson ne roulent pas sur l'or et dans un premier temps, on se dit que c'est pas lui, le petit dernier, qui va faire la fortune de la famille. Il est un élève médiocre, qui fait des études médiocres, dans une école médiocre, d'une région de l'Angleterre dont tout le monde se fout. Vous connaissez la ville de Blackheath, Stéphane ?
Pas du tout.
C'est normal, tout le monde s'en fout. Ça démarre mal pour Richie, qui en plus est dyslexique. Vous me direz, d'autres futures stars étaient dyslexiques.
Les activités médicales de Copernic s'étendent bien au-delà des limites de Frambork oui. Et le retint oui. Un mois à sa cour de Krolivec.
Oui, oui.
De Krolivec.
Oui, mais ça ne les a pas empêchés de réussir une carrière dans l'audiovisuel. Mais bon, quand même, ça partait mal pour Richie. Avec une grande finesse psychologique, très britannique, le proviseur de son lycée dira d'ailleurs à sa mère « Richard, il finira soit en prison, soit milliardaire. » Sa mère n'entend évidemment, c'est une mère, que la deuxième partie de la phrase. Très tôt donc, elle est persuadée que son fils finira Premier ministre. Un poste dont ne voudra jamais Richard, puisqu'il faut porter une cravate et vivre dans une toute petite maison au 10 Downing Street, alors qu'il déteste les cravates et les petites maisons. Non, Richard, lui, dès ses 9 ans, il rêve de conquérir le monde en lançant des business. Wikipédia indique sans plus de précision, et comme si c'était normal, qu'à l'âge donc de 9 ans, il se lance dans une plantation de sapins, puis dans l'élevage de perruches ondulées. Sans succès, est-il noté. Comme si à 9 ans, il était possible de rencontrer le succès en vendant des sapins ou en élevant des perruches ondulées. À 16 ans, Richard arrête le lycée et lance son premier magazine, Student, mais c'est à 20 ans que les choses sérieuses commencent lorsqu'il crée Virgin Records, une société de vente de disques par correspondance qui connaît un succès exponentiel. Virgin devient un groupe regroupant musique, médias, transport et divertissement. Il compte bientôt 50 000 salariés dans 29 pays. Une réussite qui s'explique en partie par la personnalité atypique, voire iconoclaste de Richard Branson, qui ressemble à tout sauf à un grand patron. Un look d'éternel ado, le sens de la provoque de Mick Jagger avec la chevelure d'Yvette Horner, Branson désarçonne. Branson fascine, d'autant qu'il adore se mettre en scène comme lors de la vente de Virgin Records en 92 pour 1 milliard d'euros, où, débordé par l'émotion, il se mettra à chialer comme une madeleine, souillant de ses larmes les papiers du contrat. Rarement on aura vu quelqu'un si triste d'empocher 1 milliard d'euros. Entrepreneur, oui, mais humain, vous le voyez. Richard se soucie énormément de ses salariés qu'il a la réputation de chouchouter. Il aime aussi transmettre aux jeunes ses conseils pour devenir milliardaire. Sa devise, je cite, « La vie est trop courte pour faire des choses qui ne vous enflamment pas ». Un beau message, sauf évidemment dans le Var. Bien sûr, en marge de son rôle de chef d'entreprise, Richard est un aventurier des temps modernes. Il a battu le record de la traversée de l'Atlantique en 86 à bord de son Virgin Challenger 2. Puis il a refranchi l'Atlantique avec une montgolfière cette fois, puis le Pacifique, puis la Manche, mais en kitesurf cette fois et à 61 ans pour varier les plaisirs. Si on compare avec ce que vous faites en Grèce l'été, Stéphane...
La mer est au bout de la maison.
Tu vas jamais te baigner.
Jamais.
Non, vous êtes pas obligé.
Jamais à court d'idées, Richard Branson... Lui, c'est un vrai aventurier, Stéphane.
Bah oui, mais
oui,
voilà.
Richard s'est aussi fait construire un sous-marin privé. Ça, vous n'y avez pas pensé au sous-marin privé. Mais après avoir exploré les abysses, les mers et les airs, il lui restait l'ultime frontière. Le 11 juillet dernier, il s'est donc envolé vers l'espace à bord d'un vaisseau Virgin Galactic, coiffant au poteau Jeff Bezos, l'autre milliardaire lancé dans la course à l'espace, qui lui s'est envolé que quelques jours plus tard. Le vol s'est mieux passé que le vol d'essai en 2014, il faut dire que ça pouvait difficilement plus mal se passer puisque le vaisseau avait implosé, tuant le pilote sur le coup. En 7 ans, les gars de Virgin Galactic ont visiblement eu le temps de corriger les petits pépins techniques. Le vol a duré une heure, à près de 90 km d'altitude, à bord notre Richard, aux anges, et trois autres salariés de Virgin Galactic, un peu plus stressés. Tout s'est bien passé. Dans la foulée, Branson annonçait le début des vols commerciaux réguliers pour 2022. Objectif affiché, 400 vols par an quand même. Prix du ticket pour cette petite balade suborbitale, 250 000 dollars. Et franchement, à 250 000 dollars de l'heure, il suffit plus là d'être multimillionnaire. Il faut carrément être multimilliardaire. Moi, bon bah, c'est foutu, je n'y arriverai jamais. Mais avec toute l'équipe d'Historiquement Vôtre, on compte sur vous, Stéphane.
Bah non, moi,
vous pouvez y arriver.
Oui, on y travaille avec le taux du patrimoine,
non,
notamment.
Bien joué, Stéphane, nous, tant que tu nous invites, on dira rien de tes petites magouilles.
Mais vous êtes monstrueux.
Ça vous dirait de partir dans les étoiles avec Richard Branson?
Pas du tout.
Vous en foutez complètement?
Complètement, oui.
Parce que moi, je m'en foutais complètement.
Oui.
Et puis pour faire cette chronique, j'ai vu la petite vidéo quand même, oui, parce qu'il a, c'est le roi du marketing, donc il s'est filmé. Eh ben, vous savez quoi, quand même, quand il passe là, cette limite qu'on franchit jamais nous, c'est assez... et il commence à être en apesanteur, et il voit cette vue sur la Terre. C'est, je ne sais pas si ça vaut 250 000 dollars, mais en tout cas, c'est, si un jour le prix baisse, s'il y a du low cost de l'espace, un jour...
C'est un peu comme quand vous passez le périph, quoi. C'est...
Ouais. Mais ça ne lui arrive jamais.
Il paraît que ça se passe.
Mathieu,
non,
mais
ou alors
jamais...
en route pour Saint-Tropez.
Je vous en prie, mais vous salissez tout.
En tout cas, merci Mathieu, votre récit était passionnant. Et encore une fois, vous m'avez mêlé à vos turpitudes.
Europe 1, historiquement vôtre.
J'adore le mot turpitude.
Et il est l'heure, Mathieu, de saluer nos personnages du jour, ces fiers aventuriers, pour retrouver nos aventuriers à nous, qui sont plus sur le plancher des vaches.
Oui, des aventuriers sur moquette, si on veut, comme on dit dans le jargon journalistique. Chaque jour, ils remontent pour nous aux origines d'une invention et d'une recette. Olivier, une recette mystérieuse aujourd'hui.
Oui, j'avais envie de moules, mais pas simplement au vin blanc. J'ai envie de... Évidemment, mais ça vous fait rire encore, non.
Moi, j'adore les moules.
Mais on aime tous les moules. Évidemment, mais c'est juste votre regard, Olivier. Ne cherchez pas le mien. Tout de suite, avant la mouclade, cette recette fascinante, David Castello-Lopez remonte aux origines d'un mot aujourd'hui.
Ouais.
Le mot maman.
Tout à fait. Je l'ai dit au début de l'émission, j'aimais bien la chronique de Stéphane l'année dernière.
Bon,
le mot
tous.
De la fin, c'était vraiment
vous
bien.
Vous voulez que je reprenne
ce serait bien. Mais non, parce que je pense
moi, j'aime pas trop ce quiz où je perds tout le temps.
Moi, voilà. Je dirais que j'aime encore plus le quiz qu'il a remplacé, hein, vu que je gagne
oui,
tout
bon,
le temps.
Oui, bon, ça va. Oui,
voilà,
oui.
Presque tout le temps. Mais quand même, ça me manque un peu. Et donc, je me suis dit que quelquefois, dans mes chroniques cette année, j'allais reprendre le flambeau. Parce que quand même, l'étymologie et la linguistique en général, c'est quand même un des gros plaisirs de l'existence. Je suis d'accord que la côte de bœuf aussi, hein, Olivier. Mais il y a aussi les plaisirs de la tête. Des fois, juste pour le plaisir, j'ouvre le dictionnaire historique de la langue française d'Alain Rey et je regarde des mots au hasard. Et à chaque fois, c'est une petite explosion de joie intellectuelle. Le plaisir de voir la forme d'un mot s'ouvrir et laisser apparaître les principes qui l'ont fixé. Le mot « coire », par exemple, qui est un mot un peu désuet pour dire « lâche, peureux ». Vous savez d'où ça vient ? Ça vient d'une vieille version du mot « queue ». Et ça veut dire, au sens propre, « qui a la queue basse ». Le « coire », vous voyez ? Et ça, moi, j'adore ça. Autre exemple, « gage ». C'est en fait le même mot que « wage » en anglais, qui veut dire « salaire ». Et que d'ailleurs, il y a plein de mots anglais qui commencent par « w » et qui ont un équivalent français qui commence par « g ». Comme « guerre »,« war »,« Guillaume », »,« William », »,« garde », »,« ward ». C'est des mutations consonantiques, je vais pas m'attarder
des
là-dessus.
Des mutations consonantiques, je vais pas m'attarder là-dessus, vous êtes un peu trop con pour comprendre. Voilà la traduction.
Non, et ce sera trop chiant, je pense. Mais je pense quand même que l'origine la plus fascinante de toutes celles des mots, ce sont les origines du mot « maman ». Il y a d'abord un truc incroyable à dire sur le mot maman, c'est qu'il se dit pratiquement pareil dans toutes les langues. En français, maman. En anglais, mommy. En estonien, Emma. En hébreu, Ima. En vietnamien, Mai. En népalais, Ama. En coréen, Ama aussi. Et en gros, il n'y a pas d'autre exemple aussi puissant d'un mot qui est aussi semblable dans des langues aussi différentes, nées dans des zones géographiques distantes de dizaines de milliers de kilomètres. Et ça, ça donne envie de savoir d'où ça peut venir, ce mot maman, qui est le même partout. Alors moi, je n'ai pas de bébé, et c'est pas prévu pour l'instant que j'en ai, mais j'ai déjà vu des bébés dans ma vie. Et vraiment, le principal avis que j'ai sur eux, c'est que ce sont des personnes complètement incompétentes. Voilà, c'est vraiment, je veux dire, ils sont tellement incompétents qu'on les félicite juste parce qu'ils tiennent debout. Vous voyez, c'est quand même limite. Mais il y a un truc qu'on ne peut pas...
Olivier Pouls aussi, on le félicite après une soirée un peu. Quand il arrive encore à tenir debout, on dit bravo.
Et vous n'en êtes pas encore à vous féliciter des dessins.
Tout à fait.
C'est beau.
Mais il y a quand même un truc qu'on ne peut pas enlever aux bébés, c'est qu'ils observent le monde qui les entoure de façon assez intense. Et non seulement ils l'observent, mais en plus, ils l'imitent. Et donc, à force de voir les adultes autour d'eux essayer de s'exprimer, eh bien, ils essayent de faire la même chose. Sauf qu'évidemment, comme ils sont nuls, ils n'y arrivent pas. Et généralement, le premier son qu'ils arrivent à produire, c'est le son « ah ». Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est la voyelle la plus facile à faire. Toutes les autres voyelles, elles nécessitent de bouger les lèvres pour être formées. E, I, O, U, vous voyez ? Alors que le A, il suffit d'ouvrir la bouche et de faire sonner ses cordes vocales, et ça marche. Vous pouvez essayer si vous voulez.
Ah.
Vous voyez, c'est vraiment la voyelle la plus facile. Et alors maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque tout en faisant A, on ferme la bouche et on l'ouvre à nouveau ?
Incroyable. Vous êtes incroyable.
Je vous ai trouvé quelques enregistrements de bébés qui le font, on écoute. Alors bien sûr, je le rappelle, les bébés sont bêtes, donc il faut pas imaginer qu'ils cherchent à signifier quoi que ce soit en faisant mais le truc, c'est que depuis la nuit des temps, les bébés, ils ont devant eux quelqu'un qui les écoute, et ce quelqu'un, c'est leur mère. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'à toutes les époques et partout dans le monde, simultanément et depuis les origines de l'humanité, pendant tout ce temps-là, les mères ont interprété ce premier son que faisaient les enfants comme s'adressant à elles. Mama, voilà. Ah, mais c'est comme ça que je m'appelle. Ah, bah, d'accord, c'est mama, vous voyez. Et c'est comme ça que partout, à mama, mama, ama, ima, c'est devenu le son qui désigne maman. Et ça va plus loin encore, parce que juste après avoir maîtrisé la syllabe ma, les bébés, ils gagnent légèrement en savoir-faire et ils apprennent généralement les consonnes, les sons b, les pe, be, te, de. Et ça donne baba, papa, tada. Dada. Je vous envoie encore quelques exemples sonores. Et donc, logiquement, ces mots-là se sont devenus aussi pratiquement dans toutes les langues du monde la façon de désigner la seconde personne la plus proche du bébé après sa mère, le papa. Voilà, on voit que ça valait la peine.
Mais dans quelle langue papa se dit tata ? C'est confusant quand même.
Alors en fait, il y en a plusieurs, mais en gros, c'est soit le mot B, P et T et D. Et en fait, si on prend ces quatre voyelles et qu'on met A devant et qu'on met A après, en gros, ça fait à peu près toutes les façons de dire papa partout dans le monde. Quoi.
Et ça, même Stéphane Bern ne le savait pas. Et pourtant, lui, c'est très impressionnant.
Bravo, je dis bravo David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site Europe1.fr.
Europe 1, historiquement vôtre.
D'habitude, il nous parle de produits ou de recettes que nous connaissons tous. Il nous en livre l'histoire et la recette. Aujourd'hui, c'est une préparation mystère. Vous nous parlez de la mouclade, Olivier Pouls.
Je n'ai jamais
entendu parler.
Parce que c'est un plat qui existe et qui est connu. Alors, dans la région charentaise, même très connu. La mouclade est un plat qui mêle des moules et qui mêle du curry, une préparation à base des deux. Et alors, pourquoi cette rencontre ? Probablement grâce au port de La Rochelle, qui voyait arriver les bateaux le ventre alourdi de leur cargaison d'épices. Et donc, on trouvait assez facilement des épices dans cette région. Et le plat a été inventé, ça on le sait, en 1903, par une certaine Marie-Thérèse Lhermitte, à Hénade, un petit village situé au nord de La Rochelle. Et elle y tenait un bistrot. Elle a eu donc l'idée de mélanger les moules avec cette épice, le curry. Alors la recette est jalousement gardée par la famille, elle va se transmettre de génération en génération. Elle sera même élue plat régional en 1961. Et c'est un vrai carton, la réputation de la recette dépasse largement la région. arrive jusqu'à Paris et on prétend que Lino Ventura, par exemple, avait l'habitude de faire l'aller-retour.
C'est Lino Ventura, ça c'est votre idole, c'est autre chose. Ventura.
Hein. Lino Ventura avait l'habitude de faire l'aller-retour. Il prenait sa voiture, il quittait Paris pour aller jusque-là manger cette fameuse moukla tellement il trouvait ça bon. Mmh. Alors là, on trouve aujourd'hui des recettes qui ont été un petit peu réaménagées ou réécrites. Je vais vous en donner une dans un instant. Mais je voulais aussi vous parler d'une autre spécialité de moule. C'est mon cadeau du jour qui s'appelle l'éclade. Est-ce que vous connaissez ça?
Encore moins.
Également originaire de Charente. Et alors ça, c'est une cuisson de moule particulière. Elles sont cuites sous des épines de pin. J'ai jamais vu ça. Ah ben, c'est absolument fantastique. Vous disposez les moules en rond de manière très organisée. C'est tout bien rangé. Vous recouvrez ça d'épines de pin. Vous mettez le feu aux épines de pin. La chaleur dégagée va permettre aux moules de s'ouvrir. Et en même temps, les épines de pin vont parfumer les moules. Un jour, je vous ferai ça, vous allez circonspect.
Depuis le temps que vous devez nous faire des trucs.
Demande David a hâte de déguster.
Mais oui, complètement.
Ah, mais c'est fantastique.
Non, mais je crois. Et donc, c'est fumé un petit peu,
c'est ça? Oui, c'est un petit peu fumé. Ça se fait beaucoup sur l'île de Léron, par exemple. La seule difficulté, c'est de ramener les épines de pin à Paris. Mais après, si je les ai, je peux vous faire ça. Alors, pour la mouclade, en revanche, voilà la recette que je vous propose aujourd'hui parce qu'on est en pleine saison de la moule. Alors, 2 kilos de moule. 20 centilitres de vin blanc, 15 centilitres de Pinot des Charentes, un peu de beurre, toujours un peu de beurre dans la cuisine, une cuillère à soupe de curry, 2 jaunes d'œufs, 2 échalotes, une gousse d'ail, un petit bouquet garni et un peu de crème liquide. Et moi, je termine par un filet de jus de citron. Alors, c'est très facile. Faites revenir l'oignon et l'ail émincé dans un petit peu de beurre. On rajoute le vin blanc, le bouquet garni, on porte à ébullition. Hop, on met toutes les moules. On recouvre. On attend 2-3 minutes que les moules s'ouvrent. Les moules, c'est facile. Quand c'est ouvert, c'est prêt.
Et quand c'est pas ouvert, c'est que
il
c'est
faut pas
bon.
Manger.
Et non, il faut pas les manger. Il faut
et
pas
pourquoi
forcer.
Pourquoi elles s'ouvrent pas, d'ailleurs?
Parce qu'elles sont mortes ou parce qu'elles sont plus en forme. Enfin, bref, il faut pas manger.
Elles sont... Voilà. Quand elles sont dans l'estomac non plus.
Non, après, évidemment. Il y a quand même un petit moment entre les deux, que si vous ne connaissez pas la date du décès pour avoir des problèmes. Ouais. Il vaut mieux qu'elle soit instantanée. Donc, vous allez réserver les moules, vous filtrez ce jus, et puis on va rajouter le Pinot des Charentes, la crème, le curry, on fait réduire. On baisse le feu pour dire ce que ça épaississe un peu. On rajoute les jaunes d'œufs pour faire la liaison. Là, on épaissit bien un petit trait de jus de citron. Vous ouvrez les moules, vous enlevez la partie supérieure, vous disposez ça dans un plat, et puis vous venez verser la sauce au curry et à la crème par-dessus, puis à juste aller manger comme ça. C'est délicieux,
ça donne envie,
c'est facile
hein.
à faire. Non, mais c'est très facile à faire, et surtout, on est là vraiment dans le début de la saison des moules, notamment les délicieuses moules d'eau bouchot dont je vous avais raconté l'histoire.
Absolument. Et là, David est moins sensible à la souffrance de la moule.
Ah, la souffrance de la moule, ça, évidemment, ça ne me concerne pas du tout. Je le sens au contraire très excité, c'est moche. Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes sur le site d'Europe1.fr.
Historiquement vôtre.
Fini de rire, mes cocos. On s'est fait des politesses, on s'est donné du bravo, Olivier, belle chronique. Oh, David, merci pour cet éclairage intéressant. Maintenant, c'est chacun pour soi et Berne pour tous. C'est la lutte finale. Vous avez vibré devant Rocky, Stéphane?
J'aime bien cette musique.
Ah oui, c'est Rocky.
Allez, c'est parti, maintenant, il faut vous départager. C'est parti. Qui est le plus nul en histoire? Olivier Bouls, c'est pour vous la première question. Mark Twain naît en 1835 dans le Missouri. On lui doit les célèbres aventures de Tom Sawyer. Il est mort d'une crise cardiaque, voyez-vous, à cause d'un ami qui lui a rendu visite chez lui en hurlant pour lui faire une blague. Est-ce que c'est vrai ou faux?
J'imagine qu'on s'est pas amusé à pondre une question si stupide s'il n'y a pas un fond de vérité là-dedans. Alors, est-ce que c'était pour lui faire une blague ou est-ce que c'est un voleur qui l'aurait surpris? Il est mort d'une crise cardiaque, je le pense, parce qu'il a entendu un cri. Est-ce que c'était une blague? Ce serait assez amusant. Dire oui, allez. Voilà, comme d'habitude.
Alors, vous aviez...
C'était pas une blague, c'était un...
un échec pour Olivier Pouls.
Il est effectivement mort d'une crise cardiaque
c'était sûr.
À 74 ans. Mais il est mort d'une crise cardiaque le lendemain du passage de la comète de Halley, dont on a parlé dans cette émission même. Un an avant, il avait dit qu'il était né lors du passage de la comète et qu'il mourrait quand elle repasserait. Et il avait dit il a eu raison.
Il s'est suicidé, certainement.
Il y avait vraiment un gars qui était passé lui dire bonjour. Mais à part que le type s'en est pas vanté. Mais c'est comme ça qu'il est mort.
Alors, David, vous qui connaissez toutes les langues, Il est très très bon dans toutes les langues, vraiment, David Christou-Lopez. En grec ancien, jolie montagne, se dit Kleitoris. C'est vrai ou c'est faux?
Pardon, mais moi je parle couramment grec ancien. Et...
Clay, je crois que c'est sûr que ça veut dire joli. Mais Tauris, quoi. En grec ancien, ça veut dire montagne jolie, c'est ça?
Jolie montagne.
Moi je dirais que non. Voilà.
Vous aviez raison. Ça veut dire petite colline.
Non! Oh non!
Mais voilà, on peut parler à la personne qui écrit les questions.
Oh. Je vous le présenterai, c'est quelqu'un de délicieux.
Alors Mathieu,
oui, c'est
là vous allez bien répondre. Je sais que vous avez.
Dès que vous dites, à chaque fois que vous dites ça, les rares fois que vous dites ça, c'est le moment où je réponds mal.
Il y a eu plusieurs projets, vous savez, pour tenter de remonter le Titanic à la surface.
Oui.
On a même pensé mettre
bien sûr, je le sais.
Plein
bien sûr.
De balles de ping-pong dans le bateau. Une technique qui a réussi déjà sur d'autres navires. C'est vrai ou c'est faux?
C'est la question, ça.
Oui.
Est-ce qu'on a songé à mettre des balles de ping-pong?
Oui. Est-ce qu'on a déjà réussi à faire ça sur d'autres navires?
Pourquoi mettre des balles de ping-pong? Il y a des choses qui ont une plus grande flottabilité encore qu'une balle de ping-pong.
Puis des balles de ping-pong, on peut les amener en bas. Des gros trucs, ça va être dur de les amener.
Mais essayez pas de m'induire en erreur, vous.
Je ne sais pas, je suis de...
Des balles de ping-pong. Moi, j'ai peur. Je vais vous dire mon sentiment. J'ai peur que ça soit encore plus con que ça. J'ai peur qu'il y ait un truc encore plus con que les balles de ping-pong.
Les ballons de foot.
Donc je réponds faux à la question. Oh non, il n'y a rien de plus con que des balles de ping-pong, j'aurais dû m'en douter, Stéphane.
C'est vrai, on l'a envisagé pour le Titanic, mais l'idée a rapidement été abandonnée. Ça a pourtant réussi pour un bateau en 1964, au large des côtes du Koweït.
Oui.
Le navire contenait 5000 moutons, il avait fait naufrage près de... Et tout a bien marché. Et on a utilisé 27 millions de balles de ping-pong qui ont été envoyés dans la carcasse du bateau avec un gros tuyau.
Et les moutons, ils sont devenus
quoi? Ah bah là, à mon avis, les moutons, ils étaient morts.
Oh là là,
à moins qu'ils aiment boire l'eau salée, tu vois.
C'était des moutons sous la mer, là, pour le coup.
C'est pas entre deux mers.
Amis végétariens, Aymeric Caron, ce sera bien marré tous ensemble aujourd'hui.
Oui, bravo, David.
Pas encore une victoire de David.
Oui, c'est une victoire de plus, effectivement, pour vous. David, historiquement, votre se termine et on aura bien voyagé aujourd'hui, Stéphane. On a vu des paysages splendides, depuis le haut du Cervin, de l'Annapurna, même le clitoris, visiblement, la petite colline. On se quitte en tout cas avec des images plein la tête, ça c'est sûr, et on se retrouve demain.
Ah oui, vous savez, avec joie, Mathieu. Vous le savez, historiquement, Vôtre ne s'arrête jamais. Donc, on se retrouve demain. Demain, les amis, j'aurai plaisir à vous retrouver également.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.